Planification et des politiques urbaines. La France a donné sa contribution parce que je pourrais dire que les grands-pères de ces changements, c'est le quartier La Défense et les soi-disant zones d'aménagement concertées. Pour être concurrentielle, une ville doit être flexible. La flexibilité est un atout important dans la concurrence avec les autres villes. Et les zones d'action concertées, justement, sont dans ce sens une des premières expériences de flexibilité urbaine. On crée une législation ad hoc pour des grandes opérations urbaines. Or, un grand événement sportif est une très, très grande opération urbaine. Donc je dirais qu'il y a un changement dans les villes qui a rendu possible que les grands événements sportifs deviennent en fait urbains. Le deuxième aspect de ce changement, c'est un changement dans l'industrie des grands événements. Les grands événements, les Jeux Olympiques, même la Coupe du Monde, n'étaient pas des grandes affaires, c'était des grandes compétitions sportives. À partir de la fin des années 70, des années 80, ils deviennent de plus en plus une grande industrie qui est contemporain aussi d'un changement technologique qui a rendu possible les transmissions sportives par satellite immédiate. Donc,
conséquences pour les habitants.
Conséquences pour les habitants. J'ai dit, ce que nous subissons maintenant, ce n'est pas la faute de la FIFA ou du Comité Olympique International. C'est le résultat d'un changement des conceptions et de l'appropriation privée capitaliste directe de la ville, le processus de privatisation de nos villes. Mais le jeu rend ça beaucoup plus visible. Pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui, il faut comprendre que le jeu, la Coupe du Monde, ne sont pas les coupables. Ils sont partis d'un processus, ils renforcent ce processus, ils cristallisent ce processus, ils approfondissent ce processus et surtout, ils rendent plus évident ce processus. Pourquoi ? Parce que c'est une quantité de capital, d'investissement financier, économique et symbolique, massif, concentré dans l'intérieur de l'espace, ce qui les rend beaucoup plus visibles.
Voilà. Et visible avec de l'invisibilisation, c'est-à-dire qu'il y a une partie de la population qui doit disparaître, qui doit devenir invisible.
Ce qui est particulièrement grave, c'est que depuis la constitution de 1988, qui nous a organisé en tant que société, État, soi-disant démocratique, supposé démocratique, le droit à la ville est considéré un droit fondamental, constitutionnel, et le droit au logement aussi. Il est établi que les gens qui habitent dans les favelas ont le droit à y rester et que le rôle de l'État est de créer des conditions urbaines adéquates. Bon, en ce moment, on profite sous prétexte de jeux, des œuvres de jeux, de préparer la ville pour la Coupe du Monde, de préparer la ville pour les Jeux Olympiques. On prend prétexte pour donner suite à un certain nombre d'importants déplacement des populations pauvres vers les périphéries lointaines. Pour donner un exemple, moi je parle en ce moment de 170 à 200 000 expulsions forcées dans les 12 capitales de la Coupe du Monde et je parle de 50 à 70 000 expulsions dans la ville de Rio. Pour vous donner une idée de ce que ça veut dire que quand on prend l'histoire récente de la ville de Rio, le moment le plus terrible, dramatique d'expulsion a été la fin des années 60, 1960, début des années 1970, sous la dictature militaire, où 35 à 40 000 personnes ont été expulsées des quartiers riches de la ville. En ce moment, on parle de 50 à 70 000 personnes. C'est-à-dire, on revient à une dimension de nettoyage social et ethnique de certains quartiers qui sont l'objet du désir des capitaux promoteurs fonciers. Et donc, c'est le double de ce qu'a fait la dictature militaire. D'où le caractère aussi autoritaire et brutal de cette ville qui est, ce que je dis, de plus en plus une ville d'exception où se joue la démocratie directe du capital.
Évacuation par la force au Brésil d'un squat situé à quelques kilomètres seulement du mythique stade Maracana.